Merci de nous retrouver, bienvenue à tous et puis c'est toujours un plaisir pour nous d'être là. Je suis avec vous jusqu'à 11h45, Didier Bleu aux commandes, Ahmed Maurice mise en onde, Ben Diakité coordination. Celui que vous entendez en dessous c'est Werason, le roi de la forêt, pour vous souhaiter donc la bienvenue et vous dire qu'on est très heureux de partager cette matinée avec vous. Dans quelques secondes seulement, César Yaou s'installe pour le journal de 7h. A tout à l'heure.
Radio de la paix, il est 7h. Le journal de 7h, César Yao.
Bonjour à tous, tout de suite le sommaire de ce mardi 7h. Selon certaines informations relayées par divers médias africains, la CEDEAO s'apprêterait à lever prochainement les sanctions économiques contre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Eh bien, si elle venait à se confirmer, ce ne sera pas un aveu d'échec de l'institution, car la diplomatie est finalement entrée en jeu. Nous dira dans ce journal Kwadio Nguessan, professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. L'Organisation internationale du travail vient d'organiser un panel de haut niveau pour accroître la visibilité de la journée de la justice sociale qui est célébrée aujourd'hui mardi 20 février et des jeunes venus de plusieurs régions du continent y ont participé. Les échos dans cette édition avec Junior Cardin. Dans l'actualité internationale en Guinée-Conakry, le président de la transition dissout le gouvernement. Aoussi Potin passera en revue les titres des journaux ivoiriens du jour. Et en fin d'édition, Francis Kassi recevra l'enseignant en économie à l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, Germain Cramo, pour évoquer la question de la hausse du taux de pression fiscale de 0,5% instauré par la loi de finances 2024. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Selon les informations relayées par divers médias africains, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'apprêterait à lever prochainement les sanctions économiques décidées après le putsch mené, n'est-ce pas, le 26 juillet dernier par le général Abdourahmane Tiani contre le président élu Mohamed Bazoum au Niger. Comment expliquer cette décision de la CEDEAO? Si elle venait à se confirmer, et faudra-t-il y avoir un aveu d'échec de ces sanctions économiques? Élément de réponse avec Kwadio Nguessan. Voilà, il est professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody.
À la suite des sanctions qui avaient été imposées par les dirigeants de cette institution communautaire, le Niger, tout comme les autres, ont formé une organisation et ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Pour ma part, c'est une très bonne chose si les dirigeants de la CEDEAO ont décidé de revoir leur position en décidant de lever les sanctions. Parce qu'une institution communautaire, c'est d'abord et avant tout d'accompagner le membre à promouvoir le développement économique, social et même culturel de ces populations.
Est-ce que, si cela s'avérait, l'on devrait y voir un aveu d'échec des sanctions économiques qui avaient donc été édictées contre le Niger, mais pas seulement contre le Niger, les autres États de la nouvelle alliance des États du Sahel, savoir le Mali et le Burkina Faso?
Pas un aveu d'échec, mais je pense que la diplomatie, entre-temps, est entrée en action.
Kwadio Nguessan, professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, était interrogé par Aoussi Potin. Le 37e sommet de l'Union africaine s'est tenu à Addis Abeba du 14 au 18 février 2024. Celui-ci a mis l'accent sur le premier plan décennal de l'agenda 2063 et cette année l'Union africaine africaine accorde une place de choix à l'éducation et à la formation dans tous les pays du continent. Que comprendre par l'agenda 2063, 10 ans après sa mise en exécution? Le point avec vous, Ghislain Koulibaly.
C'est en mai 2013 que l'agenda 2063 prend forme. 2013 marque symboliquement les célébrations du jubilé d'or de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. L'idée est de se projeter dans 50 ans et de transformer l'Afrique en puissance mondiale de l'avenir. Sur cette trajectoire de développement à long terme, l'Afrique a plusieurs défis à relever. Il s'agit entre autres de revoir et d'adapter son programme de développement en raison des transformations structurelles en cours. Les projets phares de l'agenda 2063 englobent entre autres les infrastructures, l'éducation, la science, la technologie, les arts, la culture, ainsi que les initiatives visant à garantir la paix sur le continent. Concrètement, cela devrait se matérialiser en 14 points, parmi lesquels on peut citer un réseau intégré de trains à grande vitesse visant à relier toutes les capitales, la création de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF, le passeport africain et la libre circulation des personnes, la stratégie spatiale africaine pour l'espace extra-atmosphérique, pour ne citer que cela. Ces projets font référence à des programmes et initiatives clés qui ont été identifiés comme essentiels en vue d'accélérer la croissance économique, culturelle et le développement de l'Afrique.
Aujourd'hui, mardi 20 février 2024, est la journée mondiale de la justice sociale. Pour accroître la visibilité de cette célébration, le bureau régional de l'Organisation internationale du travail, OIT, vient d'organiser un panel de haut niveau sur la question ici même à Abidjan. Des jeunes venus de plusieurs régions du continent y ont participé. On en parle avec Junior Cardin.
Cette journée mondiale de la justice sociale vient à point nommé parce que les inégalités sociales, surtout en Afrique, sont à corriger. Fanfan Kairangwa, secrétaire général adjoint de l'OIT Région Afrique.
Maintenant, nous voulons que cette justice sociale soit au cœur de toutes les politiques. Que ce ne soit pas seulement un travail de l'Organisation internationale du travail, mais que ce soit aussi les autres partenaires, les gouvernements, les employeurs, les travailleurs, même les institutions financières ou les autres organisations internationales, que tout le monde ait à cœur la justice sociale. Parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup d'inégalités dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui et surtout en Afrique, et nous pensons que ce sont des situations qui doivent être discutées pour pouvoir y remédier.
En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, des défis importants restent encore à relever, au dire de Tapé Nyoleba Aubin, directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale.
Ces défis concernent notamment la formalisation du secteur informel et le gouvernement est en train de se battre pour que ces employés-là puissent bénéficier de tout ce qui est mis à leur disposition pour relever leurs conditions de vie. Nous parlons du SMIC qui a été relevé récemment, nous parlons également du régime social des travailleurs indépendants pour leur offrir une pension de retraite.
Pour qu'il en soit ainsi, il faut renforcer le dialogue social. Soro Bamadou, vice-président de la Confédération syndicale internationale Région Afrique.
Le dialogue social doit permettre la transparence dans la gouvernance, qu'on puisse effectivement faire le contrôle citoyen par les organisations syndicales. Et dans cette dynamique, nous regarderons la question de la dette pour que la dette puisse servir au développement.
Ce panel fut pour les personnalités du monde du travail et des jeunes l'occasion de mettre en lumière les défis pressants de la justice sociale en Afrique et de proposer des pistes de solutions durables.
Junior Cardin, lutte contre la pauvreté en milieu rural. Le projet emploi jeune et développement des compétences PGDEC 3 propose de nouvelles approches. AGR-MPE entendait activités génératrices de revenus et moyennes et petites entreprises dans plusieurs localités de la région du Tonkpi. Cas du village de Drongouiné dans la sous-préfecture de Danané. Les échos avec Stéphane Adams, notre correspondant régional.
Le projet PGDEC 3 d'accompagnement à l'auto-emploi, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le Conseil régional de Tonkpi à Drongouiné, un village de la sous-préfecture de Danané, pour son opération d'enrôlement des volontaires. L'avis de quelques-uns.
Bon gars désiré. Ce qui m'intéresse actuellement, c'est AGR qui m'intéresse parce qu'il y a un nouveau CM2. Je vais faire le commerce et j'ai déjà commencé. Je commence à construire la boutique, il n'est même pas encore fini. Je cherche un moyen qui peut m'aider. Le projet est bienvenu. Je vais m'inscrire et puis espérer bénéficier. bénéficier du projet dans le village. J'ai dit merci au conseil régional de Tonkin et à la Banque mondiale pour avoir pensé au village de Drongun et à sa jeunesse.
C'est Ré Véronique. Et pour travaux champêtres, je vends chaque matin Baka. Il est super pour m'enrôler pour bénéficier du projet. J'ai dit merci à la Banque mondiale qui a donné beaucoup d'argent pour que le conseil puisse compléter pour nous aider.
Bien que les jeunes soient disposés à l'enrôlement, toutefois, des préoccupations demeurent. Il s'agit des volontaires ne remplissant pas les critères, mais favorables au projet à l'image d'eux.
Blonier d'appeler Jean-Claude, on a bien saisi le projet. Moi, personnellement, mon âge a avancé, mais je souhaite que le projet se passe très bien dans mon village. Je dirais à tous mes frères, mes sœurs, de se faire enrôler pour ce projet. Je dis vraiment merci au conseil régional d'avoir pensé au village de Drongune.
Notons que la lutte contre la pauvreté en milieu rural se poursuit progressivement avec le projet PGDEC 3 dans le Tonkpi. Stéphane Adams, Danané, Radio de la Paix.
Toujours dans les régions ivoiriennes, selon les autorités municipales de Divo, le premier samedi de chaque mois sera consacré désormais à des opérations de grand ménage dans les différents quartiers pour continuer à donner une fière allure à la ville. Le contexte était le lancement de l'opération Grand Ménage à Divo le samedi 17 février dernier. Plus de précisions dans cette correspondance de Abel César Cassin.
À la tête d'une délégation rehaussée par la présence du corps préfectoral de Divo, le maire Ali Touré a pris part à ce grand ménage qui a consisté à enlever des dépôts sauvages d'ordures, à curer les caniveaux à certains endroits, à sévir quand la nécessité s'imposait.
Hein? Donc on ferme ça. Quand ici, ça va nettoyer, vous allez récupérer. Vous le nettoyez tout de suite là. Si vous ne le nettoyez pas, on sait tout.
Dans un discours plus officiel, voici ce que le maire Ali Touré attend désormais de ses concitoyens.
C'est une affaire de tous. Parce que quand on parle de santé, la première des choses, c'est la propriété. C'est pourquoi j'invite ici nos chefs traditionnels, nos chefs de village, nos chefs de communauté, nos guides religieux, nos responsables de jeunes, des femmes, à vraiment s'impliquer dans nos différents quartiers, à faire en sorte que nos quartiers, nos villages soient propres. Et que quand on rentre à Divo, qu'on ne voit plus d'état d'ordure, ça et là. Et cela est possible.
Le préfet Guéhi Afouéjeannette, au nom de l'administration, s'est inscrite dans la même logique.
Propre, un environnement sain, donne fière allure à la ville. On a beau avoir des infrastructures, mais si la ville n'est pas propre, on ne verra pas la beauté de celle-ci.
L'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, dont le siège régional est à Gagnoa, était représentée par son directeur régional, Koné Issouf. De Divo Abel, César Cassin, Radio de la Paix.
Dans l'actualité internationale en Guinée-Conakry, le gouvernement de ce pays a été dissous hier lundi par le président de la transition. C'est dans un décret lu à la télévision nationale par un haut responsable de la junte, le général de brigade Amara Camara, que l'annonce a été faite. L'information principale, tous les ministres perdent leurs attributions et ce sont donc les directeurs du cabinet, les secrétaires généraux et leurs adjoints qui vont gérer les affaires courante jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Des portefeuilles importants ont bien changé de main, comme le ministère de la Justice ou encore de la Santé par exemple, mais il n'y avait encore eu aucun remaniement d'ampleur. La nouvelle équipe aura fort à faire. Il reste 10 mois à la junte avec à sa tête, oui évidemment, le colonel Mahamadi Doumbouya qui a pris le pouvoir fin septembre 2021 pour organiser des élections et transmettre le pouvoir aux civils selon le chronogramme conclu avec la CEDEAO. À présent, la revue des titres des journaux ivoiriens avec Aoussi Potin. Bonjour Potin.
Bonjour à vous César, bonjour à tous. 2023, l'on se souvient, César a été décrété année de la jeunesse par le chef de l'État ivoirien, n'est-ce pas?
Absolument.
Alors hier, dans la commune de Trècheville, le ministre en charge de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, en a fait le bilan. Une information présente dans les titres de une de journaux parus ce jour. Un bilan positif, on souligne le quotidien Le Matin qui titre 2023, année de la jeunesse, Mamadou Touré présente un bilan positif, plus d'1 100 000 jeunes impactés. Et en termes de sommes dépensées, il s'agit de plus de 500 milliards de francs CFA mobilisés par 21 ministères, précise pour sa part Fraternité Matin qui souligne ainsi une action gouvernementale concertée. Et après ses performances de 2023, l'avenir souligne que Mamadou Touré fixe de nouveaux objectifs à ses collaborateurs pour 2024. Avec un accent particulier qui sera mis sur l'emploi salarié jeune en 2024, met en avant l'intelligent d'Abidjan. Alors, je vous sais féru de sport parce que nos spécialistes maison sport, n'est-ce pas César?
C'est ça.
L'on est en attente en tout cas du nom du nouveau sélectionneur ivoirien. Alors, c'est chose faite depuis longtemps parce qu'après leur sac continental, les éléphants de Côte d'Ivoire attendaient de savoir qui allait revêtir le survêtement de coach jusqu'au Mondial 2026. Eh bien, le suspense a pris fin hier avec la confirmation à ce poste de celui qui était l'intérimaire, savoir Faye Emers. Éléphant encadrement technique Faye Emers prolongé jusqu'en 2026, titre le quotidien Le Sort ivoirien. Emers Faye confirmé sélectionneur, renchérit le patriote qui affiche une belle photo du nouveau sélectionneur ivoirien, tout sourire et rayonnant. Pour le rassemblement avec cette confirmation, eh bien le président de la FIFA, Idriss Diallo, a entendu tout simplement la voix des Ivoiriens, mais prévient ce quotidien le plus dur commence donc pour Emers Faye dès cet instant. Terminons César avec le nouveau réveil donc qui revient sur le décès du président du PDCI RDA, Henri Conan Bédié, décès donc survenu le 1er août 2023 et qui nous apprend donc avec ce titre de une que le comité d'organisation des obsèques du président Bédié a été constitué.
Voilà à l'instant la revue des titres des journaux ivoiriens avec Aoussi Potin. À présent, l'invité de la rédaction, l'invité de ce jour est enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cocody, il parle de la hausse du taux de pression fiscale de 0,5% instauré par la loi de finances 2024, expliquant que cela va permettre un équilibre fiscal où tout le monde va payer l'impôt via la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Docteur Germain Cramaux répond à cet effet aux questions de Francis Okassi.
Docteur Germain Cramaux, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Alors, le ministre de l'économie vient d'annoncer une hausse du taux de pression fiscale de 0,5%. Cela veut dire quoi?
Effectivement, dans la loi des finances pour l'année 2024, il est prévu une augmentation du taux de pression fiscale de 0,5%. Le taux de pression fiscale, c'est que dit le poids des recettes d'impôts dans le PIB. Donc, quand on prend les recettes collectées par l'État et qu'on rapporte ça au PIB, ça nous donne le poids de ces impôts-là dans l'économie du pays. On parle d'un taux qui va aller autour de 14,4%. Mais si on se situe du point de vue des entreprises, la pression fiscale doit représenter le poids de l'impôt sur les activités. Le taux de pression fiscale entre 27 et 33%.
Est-ce que toutes les personnes imposées sont concernées?
Effectivement, il y a des secteurs comme le secteur informel qui, généralement, ne sont pas taxés correctement.
Prenons un impôt comme, par exemple, l'impôt sur le salaire et puis essayez de nous expliquer cette hausse du taux de la pression fiscale.
Non, effectivement, cette hausse de la pression fiscale ne touche pas les impôts comme l'impôt sur le salaire. Lorsque nous prenons l'année fiscale pour l'année 2024, nous voyons que la pression fiscale, c'est au niveau de la TVA. Donc, c'est le pouvoir d'achat des ménages qui sera affecté. Par exemple, il y a des secteurs qui n'étaient pas taxés et qu'on va taxer, c'est ce qui va permettre d'avoir cette hausse de la pression fiscale. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va augmenter le taux des anciens impôts, non, mais ce sont des secteurs, par exemple, certains aliments qui n'étaient pas taxés, tels que les fruits, la viande, les poissons, qui seront taxés. On va mettre la TVA sur le prix de ces fruits, de ces viandes, de ces poissons, ce qui va permettre de collecter un peu plus d'impôts et augmenter cette pression fiscale. Également, pour les VTC, il est prévu un prélèvement de 4% sur le revenu des propriétaires de VTC. Vous voyez que si les VTC sont taxés, il va sans dire qu'ils vont répercuter ça sur les utilisateurs de ces VTC, les clients que nous sommes, ce qui va affecter le pouvoir d'achat.
De façon très simple, que signifie la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée?
La TVA, c'est comme vous le dites, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est l'impôt que les consommateurs payent lorsqu'ils font des achats. Donc, le magasin va collecter cet impôt qui va reverser à l'État. Donc, c'est un impôt que nous payons sur les biens de consommation que nous utilisons. Donc, lorsque nous partons au supermarché, que nous payons un bien, quand nous regardons sur nos factures, quelque part, il est mis TVA. Donc, nous payons l'impôt, l'entreprise collecte et l'entreprise va reverser à l'État. Donc, plus ou moins, nous payons tous l'impôt à partir du moment où nous faisons des achats dans les supermarchés et autres.
Comparons maintenant cette hausse du taux de pression fiscale à l'environnement aujourd'hui dans lequel vit la Côte d'Ivoire, qualifié de cherté de la vie.
Cette hausse de la pression fiscale va affecter le pouvoir d'achat des ménages parce que ça touche directement la TVA. Donc, tout un chacun sera affecté. Donc, effectivement, nous sommes dans un environnement de coût élevé de la vie. Aussi, il faut retenir qu'il y a des biens pour lesquels l'impôt n'est pas collecté. Donc il est bon pour l'État aussi de mobiliser des ressources. Cela aussi va avoir des effets aussi positifs sur l'économie, au-delà de cette perte de pouvoir d'achat que nous allons observer.
Et il y aurait un adage qui dit que trop d'impôts tue l'impôt, non?
Oui, trop d'impôts tue l'impôt. C'est lorsque le taux d'imposition est très élevé. Cela affaiblit et décourage tous ceux qui doivent payer l'impôt. Mais ici, il ne s'agit pas d'augmenter le taux. Il s'agit ici de taxer ces secteurs qui ne sont pas taxés. Effectivement, vous avez raison lorsque vous dites que trop d'impôts tue l'impôt. Donc, ceci nous continue d'augmenter la pression fiscale sur le petit noyau du secteur formel qui paye l'impôt. Cela va amener ces entreprises à vouloir tricher et cela va contribuer à baisser l'impôt. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'arriver à collecter l'impôt auprès du secteur informel, un secteur qui est faiblement taxé.
Mais le secteur informel passe pour nécessairement faible. Alors, comment peut-on taxer un tel secteur?
Il y a plusieurs catégories d'acteurs dans ce secteur informel. Il y a des acteurs qui font des chiffres d'affaires très élevés, mais ceux-ci ne payent pas vraiment l'impôt comme se doit. Ils vont payer les petites taxes de la mairie, mais payer l'impôt comme se doit sur l'activité, cela n'est pas réalisé. Donc le secteur informel, il y a plusieurs catégories d'agents. Il y a des gens très faibles, des petits acteurs, il y a aussi de grands acteurs qui réalisent des chiffres d'affaires assez élevés. Donc ici, il s'agit d'arriver à taxer tous ces acteurs-là pour que nous puissions avoir des recettes qui sont conformes au niveau de notre PIB.
Alors, clarifiez-nous. Payer une taxe à la mairie, c'est pas l'impôt?
C'est qu'il y a différents types d'impôts. Par exemple, quand vous faites une entreprise et vous avez réalisé un bénéfice, vous devez payer l'impôt sur le bénéfice. Mais certains acteurs qui sont informels, qui réalisent des chiffres d'affaires vraiment très élevés, puisqu'ils ne sont pas déclarés, n'ont pas d'identité fiscale, ceux-ci ne payent pas d'impôts et même ne déclarent pas leurs travailleurs à la CNPS. Donc voici plus ou moins des acteurs économiques qui réalisent des chiffres d'affaires assez élevés, mais qui ne payent pas l'impôt comme il est prévu. Donc c'est de ceux-là que je parle, mais le fait d'exister dans une commune, il y a les agents de la mairie qui sont chargés de collecter les recettes et couper des timbres pour ces acteurs-là. Mais en termes d'identité fiscale et de paiement de l'impôt sur l'activité comme il est prévu par la réglementation en vigueur, ces entreprises ne le font pas. Voici pourquoi je dis que ces entreprises payent des taxes à la mairie. Mais en réalité, si on leur demande l'impôt sur, par exemple, bénéfices, ces entreprises généralement ne payent pas.
C'est quoi on appelle l'informel?
D'abord, un travailleur informel, c'est un travailleur qui n'est pas déclaré à la CNPS. Donc, une entreprise formelle peut avoir des travailleurs informels parce que l'entreprise n'a pas déclaré ses travailleurs. L'entreprise aussi n'a pas d'identité fiscale, n'est pas déclarée auprès de l'autorité fiscale, donc ce qui fait qu'on peut considérer cette entreprise comme informelle.
Docteur Germain Cramou, je vous dis merci.
Merci à vous ici et bonne journée à vous.
Voilà l'enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody Germain Cramou était avec Francis Cassi dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui referme les pages de ce journal, le rappel des titres. Selon certaines informations relayées par divers médias africains, la CEDEAO s'apprêterait à lever prochainement les sanctions économiques contre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Eh bien, si ces informations venaient à se confirmer, ce ne sera pas un aveu d'échec de l'institution, car la diplomatie est finalement entrée en jeu, nous a confié Kouadio Guessant, professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Enfin, dans l'actualité internationale, en Guinée-Conakry, le président de la transition dissout le gouvernement. Fin de cette première édition de l'actualité sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous, 8h.
Radio de la Paix, mieux comprendre.